Flavie à Robertine. Je tirai le petit papier de ma poche et il le relut en riant. « En effet, dit-il, la Flavie de Malcolm, ce serait un peu leste. J'aurais donc supposé, et puis le mot isole, isolé, surveillé nuit et jour. Pourtant, cet abrégé de coq eût dû vous faire ouvrir les yeux. Comment donc le traduisiez-vous ? Coquette. Aussi j'étais furieuse. Je l'ai bien vu. Vous ne saviez donc pas qu'avant d'être papillon, Flavia ne pouvait être que chenille, et que, pour se mettre en chrysalide, elle avait dû se filer, se construire ou se choisir une demeure. C'est assez improprement que Malcolm s'est servi du mot coq pour Flavia. Il eût mieux valu écrire nid. Les larves ont beaucoup de procédés différents dans leur industrie. Les unes se filent un hamac fermé qu'elles suspendent ou cousent solidement à une branche, à une écorce. Les autres, bien bien. Vous m'expliquerez cela une autre fois. Il me suffit pour aujourd'hui de savoir que la bête dont j'ai l'honneur d'être l'homonyme a beaucoup plus de bon sens que moi. Je ne vous dirai pas le contraire. Les animaux ont l'instinct qui est le suprême bon sens refusé à l'homme. Tout ce qu'ils font est soumis à une logique infaillible, qui est une des conditions matérielles de l'existence. Ainsi, l'animal le plus obtus est mieux doué que la femme la plus spirituelle et que l'homme le plus studieux. Oui, sous ce rapport-là. La femme et l'homme ont, pour se dédommager, l'imagination qui est le contraire du raisonnement. Et même tout ce que l'on appelle raison chez ces deux êtres est folie, si on ne considère l'existence que comme une chose toute physique. Car le papillon sait beaucoup mieux que l'homme choisir sa nourriture et son climat. Et sa femelle sait beaucoup mieux cacher et préserver ses œufs que la femme ne sait emmailloter ses enfants. Mais que cela ne vous attriste pas, au moins. Ce qui reste à l'humanité, c'est-à-dire le rêve et la soif de l'impossible, est une assez belle faculté, et je ne reproche nullement à l'auteur des choses et des idées de ne m'avoir pas fait naître sous une feuille avec des ailes d'or et de pourpre et un cerveau parfaitement raisonnable. Tu vois par cet échantillon combien la conversation d'Emilius diffère de tout ce que j'entends de papotage autour de moi. Si mon père parlait aussi sensément et aussi agréablement, j'aurais peut-être mordu à l'histoire naturelle. Mais depuis 5 à 6 jours que je connais M. Villemer, je comprends la différence qu'il y a entre un collectionneur et un vrai naturaliste. Mon père et Malcolm sont des collectionneurs et rien de plus. Ce que j'admire dans l'autre, c'est qu'il ait une mémoire et une instruction assez merveilleuses pour être capable de savoir mieux qu'eux cataloguer et collectionner. Tandis que lui, au fond de sa pensée, je l'ai bien vu. Il ne se soucie pas de la possession de tout cela et dédaigne même un peu le temps qu'on perd à se le procurer. Il a une quantité de choses précieuses à ce qu'il paraît, qu'il aime à donner aux autres savants. Et cette fameuse Flavia qu'il avait recueillie en chenille l'année dernière en Suisse, il n'avait pris le soin puéril de la nourrir et de la surveiller en voyage que parce qu'il savait faire un grand plaisir à son ami Malcolm en la lui apportant. Ceci l'excuse, n'est-ce pas ? Éprouve beaucoup d'obligeance et de bonté. Enfin, ma chère, depuis 8 jours, je me laissais aller au plaisir de causer, matin et soir, pendant 1 heure, avec ce singulier et charmant personnage, car il faut bien convenir qu'il est charmant, et que la manière modeste, ingénieuse et saisissante dont il parle de ce qu'il a vu me réconcilie complètement avec son innocente passion pour la nature. Je dirais même à présent, comme Lady Rosemonde, que c'est cette passion qui a quelque chose de divin dans certains esprits. Mais hélas, tu vas voir que rien ne me réussit, à moi, et qu'il faut que je renonce à cultiver la science et l'amitié. J'ai voulu, pendant ces 8 jours, oublier ce beau regard qui m'avait paru trop brillant au coucher du soleil, ou plutôt m'habituer à le supporter sans étonnement comme un phénomène naturel, produit par de très beaux yeux. Que m'importait, après tout, puisqu'il n'y avait pas de risque qu'il trouvât jamais l'occasion et le moment de me dire ce que je ne voulais pas entendre. Si bien que ma prudence s'est endormie dans je ne sais quelle nonchalante sécurité, et qu'avant-hier matin je me suis oubliée sur un banc du jardin à le regarder étudier dans le cabinet de mon père, dont la fenêtre était toute grande ouverte. Il faut bien qu'il s'en soit aperçu. Quand on a la vue basse, on se figure toujours que les autres ne vous voient pas lorgner. Tant il y a que, peu de moments après lui avoir tourné le dos, je le vis à côté de moi, comme un aérolithe qui y serait tombé sans bruit. Je ne songeais pas à m'en aller. J'aime à causer avec lui et à le taquiner un peu, parce qu'il répond toujours. Je ne dirai pas mieux que les autres, mais autrement. Et que cela me désennuie de toutes les idées que je connais, de toutes les phrases que je sais par cœur. Il me répondit cette fois tout de travers. Il était absorbé. Mes questions, ma gaieté, le faisaient visiblement souffrir. Je lui en demandais pardon et me levais, résolu à m'en aller pour le laisser résoudre son problème. Mais il me retint d'une main très forte, qui laissa même son empreinte sur mon bras, Je fus forcée de me rasseoir. Est-ce que vous avez des accès de folie, lui dis-je, en essayant de me dégager. Non, répondit-il, c'est vous qui êtes maintenant le problème. Restez donc tranquille un moment. Et, tenant toujours mon bras, il m'examina, comme on dit, dans le blanc des yeux, de la façon la plus irritante, au point que, de ma main libre, j'étais tentée de lui donner un soufflet. Pourtant, comme son expression de douceur et de bonté protectrice ne se démentait pas, j'étais plus fâchée qu'effrayée d'une sorte de jeu analogue à celui de l'ours avec le petit chien, et je me demandais si ce bel œil profond et clair pouvait être celui d'un amoureux extatique ou celui d'un fou furieux. « Ma chère, qu'il en soit ce qu'il vous plaira, mais il est amoureux de moi à sa manière, qui n'est peut-être celle de personne, mais que je ne puis tolérer. » Voyant que je ne pouvais me dégager de sa main de fer, je pris le parti de lui rire au nez avec dédain. Il se leva alors très brusquement, comme il avait fait la première fois, et je ne l'ai pas revu de la journée. Il s'est excusé de manger avec nous parce qu'il avait trop de travail, c'est-à-dire qu'ayant entrepris de m'enflammer le cœur par la fascination du regard, il a été dépité de ne réussir qu'à me sembler absurde. Ma foi, tant pis pour lui après tout, qu'il boude si bon lui semble. Y a-t-il rien de plus inattendu et de plus extravagant que ces hommes à système mystérieux, qui n'ont pas la notion des convenances sociales et qui croient pouvoir tout arranger selon la loi de Dieu, même l'amour et le mariage? Il se sera dit, j'en suis sûre, qu'il était un homme supérieur, et que, puisque j'avais un brin d'esprit, je ne pouvais faire autrement que de l'admirer jusqu'à l'hyménée inclusivement. Quel dommage que cette tête si vaste et si pleine manque presque toujours de mesure et de tact. Je me suis demandé hier, toute la journée, si j'étais coupable de quelque provocation involontaire, de quelque apparence de coquetterie qui l'eût amené à cet oubli outrageant de mon caractère et de ma position. Nullement. Autant que l'on peut jurer de soi. Je jure de n'avoir pas une seule fois songé à lui plaire autrement que je ne le devais, c'est-à-dire comme la fille de mon père peut et doit se rendre agréable et hospitalière à un monsieur qui finit en us. Je ne l'ai pas revu d'aujourd'hui non plus. Il est allé faire une grande promenade, je ne sais où. Je vois bien qu'il me boude, ou qu'il se repent. Peut-être a-t-il beaucoup de chagrin et de regret de sa conduite. S'il est homme d'honneur, comme je le crois, il doit se reprocher d'avoir fait une espèce d'insulte à une personne qui lui témoignait de l'estime et de la déférence. Après cela, il ne se rend peut-être pas compte de sa grossièreté. C'est peut-être un homme qui s'enflamme bêtement, comme un cuistre ingénu, de toutes les femmes qu'il voit, et qui a si peu rencontré de femmes du monde qu'il prend leur grâce et leur politesse pour autant d'avance. S'il en était ainsi, je le mépriserais, et je n'aurais pas assez d'ironie contre moi-même pour m'être laissé éblouir par son éloquence de Vadius. Mais non, c'est impossible. Il y a en lui par moments trop de finesse et de bon sens délicat. Non, c'est un homme qui s'en va à travers la vie comme un rayon de soleil, sans savoir sur quoi il tombe. Ou bien... Mais je m'y perds, et au milieu de mon indignation, je me sens prise d'une immense pitié pour cet homme grave, qui ne sait peut-être pas plus lutter qu'un enfant contre le premier réveil de son cœur. Pauvre Emilius, comme il eût été favorisé du ciel si, au lieu d'une mondaine comme moi, mon père eût eu une fille éprise de botanique ou de minéralogie. Chapitre 4. Emilius à Malcolm. Fragment. 2 mai. Ainsi que je vous l'ai écrit, elle était close, on ne peut pas mieux. Et je l'ai préparée avec un soin tout particulier. Cela me fait penser à vous dire que vous manquez d'épingles numéro 5 et 6, et que vous ferez bien d'en apporter. J'en manque aussi. J'ai chassé aujourd'hui et hier au soir à votre intention. Depuis 8 jours, j'en étais empêchée par le catalogue de M. K, à qui je n'ai pas voulu refuser ce service. Et puis il fallait bien gagner quelques sous pour continuer mon voyage. Je vais vous dire le résultat de ma chasse, en fait de saisie en crisse, dans les bois et dans les écorces. Ophioniformis et Ringioformis, très rares. Brosiformis, introuvable pourtant, il fait plus chaud ici qu'à Rome. Zygocide, au vol, une primeur. Medicaginis, la variété Stoccadis, la même qu'en Piémont. Belle trouvaille, la Chelonia simplonica, je crois, à l'état de larve. L'Asiocampa lineosa, éclosion d'hier. Je ne vous les décris pas, vous les verrez. Je ne m'attendais guère à les trouver ici. Mais que ne trouve-t-on pas? J'ai fait la revue de mes boîtes. J'ai retrouvé avec plaisir l'Anartacora. J'avais pris cela l'an passé dans les environs de Kazan. C'est très abîmé mais très précieux quand même. je n'ai pu remettre la main sur un individu, même pays, plus rare encore, que je vous destinais. Antophila, purpurea var, Rosina. Il faut qu'il soit tombé en poussière impalpable durant le voyage. Pour m'en consoler, j'ai fait, à votre profit, un échange avec le cabinet de Florence. J'ai donné un magnifique sphinx, Osiris, pour une paire de petites Archia luctuosa, que je n'ai encore vues qu'en Sicile. Ça vous épargnera le voyage. Je sais que vous ne vous occupez qu'accidentellement des reptiles. Pourtant, je regrette beaucoup de n'avoir pu m'emparer d'une superbe couleuvre qui était enroulée à un myrte et que j'allais saisir quand une société de flâneurs me la fit perdre. J'en ai eu un accès de colère, et pour un peu, j'aurais battu ces gens-là. Voilà, mon aimable ami, tout ce qui peut vous intéresser ici. Je ne parle pas de votre mère et de vos amis, qui écrivent probablement plus que moi. Quant à moi, cher Malcolm, je suis le plus heureux des hommes, j'ai la foi. J'y arriverai, n'en doutez pas. Je saisirai ce grand mystère. Je ne dis rien contre les branches de la science qui m'ont absorbé jusqu'à présent. Tout chemin conduit à Rome. Je ne dis rien contre l'anatomie. Il faut commencer par là. Mais celui qui s'y arrête se dissèque lui-même et fait de son cerveau une boîte vide. C'est sur l'être vivant qu'il faut observer les phénomènes de la vie. Nous causerons de tout cela si vous arrivez bientôt, comme je l'espère. Je suis fort content, bien logé, bien nourri, bien recueilli. Des hôtes fort aimables, M. de K., un peu étroit dans ses idées de classification. Sa fille, très bonne personne. Elle m'a fait entendre que vos parents songeaient à vous marier ensemble. Est-ce vrai? Vous aurez bien de la peine à lui faire aimer la nature. Ce n'est pas là son aptitude, mais elle a beaucoup de gaieté. Malgré le plaisir que j'aurais à vous retrouver, je ne pourrai peut-être pas vous attendre plus de 8 jours. J'ai impatience de voir une opération que D doit faire à Milan et à laquelle il m'invite. J'y serai dans les premiers jours du mois prochain. Si je ne vous revois pas ici, écrivez-moi et donnez vos commissions à votre fidèle ami, Emilius Wilmer. Chapitre 5. Flavie à Robertine. 15 mai. Ma chère enfant, il était écrit que je te ferais beaucoup rire et que je serais 2 fois stupide. Ce matin, entendant crier mon petit chien, je l'ai cru enfermé dans la bibliothèque. Et j'ai trouvé là M. Emilius, armé d'une grosse loupe, braquée sur l'œil de Jamie. La pauvre bête criait d'ennui et de peur. J'ai cru que ce diable d'homme lui faisait du mal. Je me suis fâchée. « Disséquer les bêtes mortes, lui ai-je dit en reprenant mon chien, au risque d'une nouvelle bataille avec ce sauvage. Laissez les vivantes en paix. » Il m'a juré qu'il serait désolé de faire le moindre mal à mon petit ami. Et tout de suite, il m'a demandé une grâce qui le rendrait le plus heureux des hommes. Devine quelle faveur insigne il réclamait et qui me faisait une peur affreuse. Je craignais de voir se renouveler la scène ridicule de l'autre jour, mais j'avais bien tort. Il ne s'agissait que de laisser examiner mes yeux en plein soleil à la loupe. Quelle chose agréable. J'y consentis pour un instant. J'étais curieuse de voir à qui en avait cet original. « Ah ! S'écria-t-il avec transport en faisant son examen, comme vous êtes myope. Et le bel œil, quelle limpidité. C'est un diamant de la plus belle eau. Que n'êtes-vous une pauvre mendiante ? Je vous ferai rester là 1 heure, jusqu'à ce que votre soleil et votre loupe m'eussent rendu aveugle ? Bah, les victimes de la science, il en faut. Mais vous ne voulez pas en être, je comprends ça, merci. Votre œil est des plus instructifs. » Pressé de questions qu'il éludait toujours, il me répondit enfin que le phénomène de la vision était l'objet de ses anxiétés. Il paraît que cette chose si simple n'a jamais été expliquée et ne le sera peut-être jamais. Quant à lui, il y aspire quand même. Il a déjà découvert je ne sais quoi de merveilleux dont les plus grands oculistes ne se doutent pas. Il me parla de cristallin, d'angle d'incidence, de miroir, de double réfraction lumineuse. Probablement, cette fois-ci, je te rapporte les plus grandes bêtises du monde qu'il n'a pas dites et que j'arrange comme une omelette de ma façon. Probablement aussi, il s'exprima aussi clairement que de coutume, mais je n'écoutais pas. J'avais de l'humour de m'être tant apitoyée sur le sort d'un homme qui en a si peu besoin et qui n'a vu en moi qu'une seule chose, c'est que j'ai la vue courte et la pupille transparente. Chapitre 6. Malcolm à sa mère. 15 mai. Ma bonne, chère et meilleure amie, je reviens décidément. Pourquoi laisser partir cette pauvre Anne, qui sait, mon Dieu ? Je suis décidée à me marier, et puisque vous aviez rêvé ce mariage-là, pourquoi y renoncez-vous ? J'ai eu un accès de folie que vous avez pris au sérieux, mais puisque, grâce au ciel, Mademoiselle de K ne s'en doute pas, qu'il me soit permis de guérir et de l'oublier. Voilà trois lettres où vous me dites d'abord qu'en ce qui la concerne, je ne dois pas avoir beaucoup d'espérance, puis que vous n'avez guère espérance. Enfin, que nous ne devons presque plus avoir d'espérance. Excellente mère, je comprends très bien maintenant que je n'aurais jamais dû en avoir. Comprenez à votre tour que je n'ai pas beaucoup de regrets, et même que je n'en ai presque plus. Cette fille charmante m'avait éblouie comme tant d'autres qui se sont consolés de ne l'avoir pas fixée. Ce qui me plaisait le plus en elle, à Rome, c'est que je m'étais imaginé trouver dans son caractère et dans ses goûts du rapport avec les vôtres. Active, courageuse, gaie, aimant les voyages et le monde, l'éclat et la simplicité, il n'y avait pas jusqu'à l'imprudence de sa tenue et de sa conduite qui ne me semblasse, par moments, un charme de plus et la preuve d'une âme droite et généreuse. Mais combien je m'étais trompée, et comme elle m'est apparue sous un autre jour dès que nous avons vécu près d'elle dans une sorte d'intimité. Tout ce que vous faites naturellement et par véritable besoin ou amour de la chose, elle le fait par affection, et uniquement pour qu'on sache qu'elle le fait. Vous aimez les chevaux vifs et les dangers. Elle affronte tous les dangers et tous les chevaux, et bien plus que la pauvre marquise G, dont elle se moque et qui, en somme, ne fait la brave que pour éblouir son imbécile de mari. Mademoiselle de K est poltronne et ne pose l'audace que pour éblouir tout le monde. Et il en est de tout ainsi, car elle n'aime rien qu'elle-même. Elle affecte de mépriser la petite musique et ne comprend rien à la grande. Elle critique tout à tort et à travers pour se donner l'air de tout savoir. Et qu'est-ce qu'elle sait ? J'aime mieux l'ignorance ingénue et avouée de mes petites cousines. Dans d'autres moments, il est vrai, elle pose l'ignorance aussi pour faire l'enfant, et c'est à propos de choses qu'elle sait peut-être un peu trop. Enfin, que vous dirais-je ? Tout en elle me charmait à Rome. Tout m'a déplu à Florence. C'est probablement parce qu'elle a gardé à sa suite le marquis qu'elle aurait dû éloigner. J'ai cru à Rome qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle était loyale, et qu'elle le poussait franchement à épouser la signora Betta. D'où vient qu'aussitôt après le mariage, cette princesse a souffert à sa cour, et retenue par mille mauvaises agaceries, sachant fort bien que sa femme en souffrait. Je ne suis pas un rigoriste, je me le suis bien prouvé à moi-même en m'éprenant si vivement d'une personne si entourée. Mais je ne pardonne pas à une femme d'être méchante, et j'ai cru voir qu'elle l'était. Si je me trompe, tant mieux pour elle, mais si j'ai raison, par hasard, tant mieux pour moi de m'en être avisé à temps. Donc, quand même vous ne m'eussiez pas fait partir, je me serais éloignée d'elle après cette promenade à la Chartreuse, où pour la première fois, j'ai pu l'entendre parler pour moi seule. Elle a dit là, pendant un quart d'heure, autant de paradoxes maniérés et de non-sens révoltants qu'il s'est écoulé de minutes. C'est plus que mon amour n'a pu en digérer. Consolez-vous donc, chère bonne mère, je reviens lieto et lepido. Je me hâte, parce que je veux retrouver là-bas mon ami Emilius que je vous présenterai, qu'il le veuille ou non, et qui, tout en me disant que Fleu est une bonne personne, aimez-vous en mots là, n'a pas l'air d'approuver beaucoup un mariage entre elle et moi. Mais où mademoiselle de K a-t-elle pris cela ? Je ne crois pas lui avoir donné le droit de m'attacher à sa boutonnière entre le ruban du marquis et celui de l'abbé. Au revoir, dans 2 jours. Dites aux petites que je leur apporte des fleurs séchées, cueillies sur les plus hauts rochers de l'Apennin. Vous me dites qu'elles attrapent, à mon intention, tous les papillons du jardin. Eh bien, si par hasard il y en a un qui a ses 4 ailes, ce sera déjà un bon point. Votre fils qui vous adore. Malcolm.